9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Une nouvelle émission a été lancée ce week-end, les points sur les i. C'était avant-hier, dimanche à 19h sur CNews, une émission télévisée portée par un éditorialiste de droite, Yvan Rioufol, qui pendant une heure a dit ce qu'il pensait de quelques sujets d'actualité. Bref, une émission de commentaires, encore une, dans un paysage médiatique qui n'en manque pas. Des commentaires parfois mesurés, souvent outranciers et régulièrement polémiques. Ils sont de plus en plus présents à la télévision, à la radio, dans la presse et sur les réseaux sociaux, et ils étendent leur influence dans l'espace public. Bonjour Nicolas Truong.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste au Monde, vous avez dirigé les pages idées, débats de ce quotidien et vous êtes de retour sur le terrain depuis quelques mois, ce qui explique que vous êtes en ligne avec nous ce matin en direct. Vous avez signé un long article il y a quelques jours sur cette société du commentaire, c'est ainsi que vous l'appelez, société qui vient d'accueillir cette nouvelle émission, donc construite autour d'Yvan Rioufol. On va l'entendre parler, c'était dans la première partie de l'émission, en plateau avec lui une autre journaliste, Véronique Jacquier, extrait.
Le vrai séparatisme le plus inquiétant, c'est celui qui est en train de faire s'éloigner les dirigeants, les élites, appelons-les ainsi, du peuple.
Les partis politiques sont devenus des marques. C'est que les partis politiques ne pensent pas à 10 ou 20 ans et ne pensent pas pour le plus grand nombre. On a perdu même la notion d'universalité dans la façon de faire de la politique.
Nous sommes dans une sorte de tyrannie démocratique, en effet. Nous sommes sommés de faire en sorte que l'on évite des morts et en même temps, nous sommes sommés de nous éloigner des uns des autres.
Je pense que la crise sanitaire est le révélateur d'une démocratie qui se porte mal. Alors oui, aigreur, jalousie, mais malheureusement, ça fait partie de la nature humaine. Oui. Et chaque fois qu'une démocratie se porte mal, on voit justement des délateurs sortir un petit peu en nombre.
Deux journalistes qui donnent leur avis sur des sujets d'actualité sans s'appuyer sur des reportages ni sur des interviews, bref, sans images, on est pourtant à la télévision, voilà pour la forme. Nicolas Truong, qu'est-ce que vous êtes dit en regardant cette émission ?
Écoutez, je me suis dit que... D'une part que la réacosphère s'adosse parfaitement à la société du commentaire et que les raisons économiques ont porté en fait ces nouvelles orientations idéologiques que l'on voit s'épanouir notamment sur CNews, mais pas uniquement en fait. Je pense que ça touche là une grande partie en fait des chaînes d'info, de la presse, etc. Ce qui me frappe, rien de nouveau sur le soleil, si je puis dire, de la réaction, c'est eux-mêmes qui s'en flattent. Hein. Je crois qu'Yvan Rioufol a, si je ne m'abuse, écrit un ouvrage qui s'appelle « De l'urgence d'être réactionnaire » et qu'il avait déclaré sur le plateau de Pascal Praud qu'heureusement qu'il y a la fachosphère aujourd'hui, parce que c'est là où se disent les vérités. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'explosion, en fait, du commentaire en tant que tel, et le fait que cette mouvance réactionnaire, néo-réactionnaire, appelons-la comme vous voulez, d'une certaine façon, et qu'il se revendique, s'est vraiment engouffré dans ces nouveaux formats. Parce qu'il faut donc du plateau, c'est pour des raisons souvent économiques. On fait du plateau, ça coûte pas cher, on peut payer des chroniqueurs, ouais, ou pas, ça dépend d'ailleurs des émissions. Et puis, faire du débat, faire de l'opinion. Moi, la seule chose, que cette mouvance-là s'exprime, c'est une chose. Ce qui me pose plus problème, au-delà de cette mouvance, c'est qu'effectivement, ça se fait sans... pas à partir de pensées informées, si vous voulez. Ou alors que l'information est elle-même biaisée. C'est ça, en fait, que je trouve finalement un peu problématique dans cette société du commentaire. C'est-à-dire que, on qualifie d'éditorialistes des personnes qui n'ont pas forcément de culture journalistique. Et on parle, au fond, il s'agit plutôt d'opinion, d'idéologie. Mmh. J'ai rien contre les idées. La seule chose, c'est quand, précisément, là, on soumet, comme disait Hannah Arendt, la réalité à la logique d'une idée. Et ce qui me frappe, on a entendu là quelques extraits, c'est que on joue les oppositions binaires, les enracinés contre les déracinés, le peuple contre les élites, les somewhere contre les anywhere, le bloc élitaire contre le bloc populaire, ce genre de choses. Donc ce sont effectivement des formules qui viennent d'essayistes, parfois... de chercheurs de temps en temps qui marchent bien en fait sur le marché du commentaire, mais qui ne sont pas éprouvés véritablement par le journalisme et par les faits, si vous voulez. Donc le problème est le suivant, c'est-à-dire que c'est là où se niche l'idéologie, c'est-à-dire que quand on soumet la réalité à la logique d'une idée, oui, on tombe dans l'idéologie. même s'ils ont tout à fait le droit d'être réactionnaires. Ouais. Je pense que c'est le problème, c'est le micro qu'on leur tend pour faire de l'audience, pour faire du clash, pour faire du buzz, et surtout que ça impose des problématiques dans l'espace public. On a vu ça avec la question de l'islamo-gauchisme, puisque c'est quand même sur le plateau de CNews que Frédéric Vidal a annoncé qu'elle diligenterait une enquête du CNRS sur ce phénomène.
La ministre de l'enseignement supérieur.
Dans les universités.
Juste un mot sur Yvan Rioufol, qui est quelqu'un d'estampillé à droite. Il y a aussi dans tous ces gens qui vont sur les plateaux et qui font des commentaires, il y a aussi des gens qui sont marqués très à gauche, des gens de la France insoumise. Mais là, il faut le dire que cette émission nouvelle était incarnée par Yvan Rioufol. Je vais revenir à un sujet très intéressant que vous relevez sur l'opposition binaire. Parce qu'il s'agit de télévision et il s'agit en même temps de débat. Donc il s'agit d'un débat qui est filmé pour la télé. Est-ce que cette opposition binaire est dans la tête des gens qui parlent, des intellectuels ou des journalistes ou des essayistes qui parlent, ou est-ce qu'elle est poussée par les chaînes de télévision parce qu'une opposition binaire, on sait que c'est ça qui fait du spectacle, sans vouloir paraphraser Guy Debord.
C'est-à-dire que pour un certain nombre de chercheurs que j'ai interrogés pour mon enquête sur la société du commentaire, au fait, ce sont les dispositifs médiatiques, et notamment numériques, qui poussent aux commentaires et qui poussent précisément à la binarisation. La société numérisée, elle est gouvernée par les algorithmes, et elle revêt une forme binaire, ce que dit un chercheur comme Pierre Musso, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est à la fois le règne du feedback, c'est-à-dire où triomphe le binôme action-réaction, comme l'illustre l'alternative entre like et no like, j'aime et j'aime pas sur Facebook. Après, je pense que il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on impose des problématiques dans l'espace public. Et donc, il est plus simple pour faire un débat rapide, vite fait, bien fait, d'avoir des oppositions tranchées, d'avoir par exemple sur l'école quelqu'un qui est pour le retour à la blouse grise et de l'autre un libertaire qui n'existe même plus dans le champ de l'utopie scolaire, si vous voulez. Donc vous mettez d'un côté un partisan du retour à l'ordre d'antan et puis un échevelé débridé. Donc c'est beaucoup plus simple, effectivement. Ou alors, c'est ça le problème aussi, c'est que dans certaines de ces émissions, vous avez des faux duels. En fait, vous avez des gens qui sont faussement pas d'accord. Vous avez quelqu'un qui est dit de droite et l'autre dit de gauche, et sur la laïcité, ils sont absolument d'accord parce que les clivages ont changé. Pour le coup, faut leur rendre justice de ce point de vue-là. Les clivages ont changé. Et quelqu'un comme Yvan Rioufol dit notamment que c'est l'islam qui sert de révélateur à la fracture politique. Donc vous pouvez avoir en apparence des plateaux composés de manière, non seulement il y a des débats binaires, mais composés de manière pluraliste, avec diversité d'opinions, mais sur certains sujets, comme celui de la laïcité par exemple, vous avez à peu près le même point de vue qui est défendu. Vous avez des conservateurs de gauche, des conservateurs de droite, des ultra-réactionnaires de gauche, des ultra-réactionnaires de droite. C'est pas partout, pas tout le temps non plus,
et heureusement,
mais ça existe et ça domine aujourd'hui très largement ces chaînes, en tout cas ce que vous avez fait entendre là, même si au fond cette émission n'était pas plus, le problème c'est que c'était tellement...
Pardonnez-moi Nicolas Trunc, juste un tout petit mot pour dire que tout n'est pas à jeter dans la société du commentaire, parce que vous y relevez dans votre article aussi des aspects positifs. C'est pas tout à fait une agora, mais quand même, il y a quand même des idées qui s'émettent. On en parle juste après ça. On marque une toute petite pause. Nous sommes avec Nicolas Truong, journaliste au Monde. Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Nous parlons de la société du commentaire telle qu'elle est décrite et même un peu dénoncée par Nicolas Truong. Il est journaliste et grand reporter au Monde. La société du commentaire, ce sont ces nouvelles émissions et ces émissions qui sont faites uniquement à base de commentaires d'éditorialistes, de journalistes, de spécialistes réels ou supposés et non plus d'informations. Il y a William Dabb dans votre papier qui est l'ancien directeur général de la santé qui lui indique qu'il y a ici un manque que comblent ces émissions. Il dit, s'il y avait eu par exemple un véritable débat public sur les questions sanitaires, je ne serais jamais allé sur les plateaux télé. Quelle est la part de responsabilité des dirigeants politiques et de leur silence dans cette société du commentaire, selon vous, Nicolas Truong ?
D'avoir peut-être court-circuité les corps intermédiaires, d'avoir court-circuité aussi les espaces de délibération, et ces espaces de délibération se font maintenant à la radio, à la télévision, Alors, on peut le déplorer. C'est pas nécessairement mon cas. C'est sans doute pas le cas de William Dabb, l'ancien directeur général de la santé, en effet, comme vous le dites, qui lui dit, ben, heureusement, voilà, heureusement qu'il y a ces espaces, parce que regardez, aujourd'hui, la ville de Dax est confinée comme Paris, et ça nécessite une explication. Il dit qu'il n'y en a pas. Alors, du coup, le débat se passe dans les médias, et heureusement qu'ils sont là. Sinon, on ne nous entendrait pas, déclare-t-il.
Ouais. Il y a la sémiologue Cécile Alduy que vous faites parler, qui explique l'inflation, je la cite, l'inflation du commentaire est une bénédiction pour le gouvernant qui peuvent plus aisément manipuler, ça va loin, le cycle d'information en lançant des sujets pour détourner l'attention ou l'orienter vers des points qu'il contrôle. Est-ce que c'est également votre avis? Est-ce que ça arrange les gouvernants?
Écoutez, en tout cas, ça fonctionne comme à l'heure. Ce qui est curieux, c'est que Emmanuel Macron lui-même a déploré, en fait, cette société du commentaire incessant qui nivelle tout, qui fait que, au fond, un médecin, un virologue est mis sur le même plan qu'un communicant qui est amené à donner son avis sur un plateau de télé. Mais aussi, en lançant un certain nombre de polémiques sur les plateaux de télévision, de radio, en se livrant à la société du commentaire, à des commentaires en quelques mots sur Twitter, il contribue également à nourrir cette société du commentaire permanent, incessant, et empêche parfois, en tout cas, fait en sorte, détourne la délibération démocratique. Mais il faut rappeler une chose, vous m'avez lancé tout à l'heure sur des émissions qui font très clairement partie d'une sphère idéologique droitière ou extrême droitière, mais la société du commentaire, ça peut être aussi la société démocratique. Il n'y a pas de commentaire si on est dans les sociétés totalitaires, ou alors sous le manteau, sous le boisseau. La société du commentaire fait partie de la société démocratique. Moi, j'ai simplement pointé, avec quelques auteurs, essayistes, notamment, et chercheurs, les dérives du commentariat.
Est-ce que quand une ministre comme Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, lance cette bombe, entre guillemets, sur l'islamo-gauchisme, est-ce qu'elle le fait à dessein? Est-ce qu'elle le fait pour allumer un contre-feu, ou est-ce qu'elle le fait en toute sincérité? Je veux dire, vous citez dans votre papier Jean-Sébastien Ferjou, qui était le fondateur d'Atlantico, qui est toujours le fondateur d'Atlantico, qui dit « Jamais je n'aurais parlé pendant 3 jours de l'islamo-gauchisme. » S'il n'y a pas eu ces émissions qui l'invitaient, sous-entendu.
Oui, c'est-à-dire que d'ailleurs lui m'a dit qu'il n'aimait pas ce terme, même s'il trouvait qu'il recouvrait une réalité effective, parce que c'était un terme insultant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces émissions de commentaires n'ont pas une immense audience, à part quelques émissions, comme celle notamment d'Éric Zemmour face à l'info, mais elles ont une importante influence. Et du coup, oui, elles imposent des problématiques dans l'espace public.
Parce qu'elles
et
sont
là,
regardées.
Je pense qu'effectivement, l'islamo-gauchisme, c'est pas né avec Frédéric Vidal qui arrive sur le plateau de CNews face à, Jean-Pierre Elkabbach. Qui lui dit qu'effectivement il y a sans doute, si je puis dire, une alliance entre Mao Tse-tung et l'ayatollah Khomeini sur les campus français. Non, c'était déjà présent. Ceux qui écoutent, ceux qui lisent, ceux qui, comme vous, observent la vie médiatique, savent que c'est ce vocabulaire où on transforme les victimes en idéologie victimaire, où on parle plus des victimes, moins des victimes, mais de l'idéologie victimaire. On ne parle pas de la mémoire de l'esclavage, mais au fond de la tyrannie de la repentance, etc. On a bien vu que tout ce vocable s'était imposé dans l'espace public via, en fait, ces émissions de commentariat, et non pas de commentaires qui, encore une fois, peut faire partie et fait partie, bien sûr, de l'espace public, parce que c'est aussi une révolution démocratique, le fait que n'importe qui puisse être amené à réagir, et pas simplement les gens qui sont autorisés. Le problème, c'est que n'importe qui, ça peut être aussi n'importe quoi. C'est bien ça la dialectique, si je puis dire, de cette société.
Nicolas Truong, les journalistes ne sont pas les derniers à commenter l'actualité. Est-ce que ça présente un risque pour la profession? Ironie de l'histoire, vous dirigiez les pages Idées, Débats du Monde, vous êtes retourné sur le terrain, et en avril 2017, vous citez cette citation, pardon pour le pléonasme, de Christophe Barbier, qui disait au JDD « Se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste ».
Oui, les journalistes sont pas les derniers, ils sont même un peu les premiers, en fait, à être amenés à commenter. Mais ce n'est pas un souci en tant que tel. Le problème, c'est quand la pensée n'est pas informée, quand ça se fait pour faire vitre aux doigts mouillés, mm-hmm. ou comme ça se fait, comme dirait Pierre Richard dans un film éponyme des années 70, ça se fait à la manière, je sais rien, mais je dirais tout. C'est-à-dire que quand la pensée est informée, aucun problème, unique pour moi et pour la profession. Quand elle se fait à partir de une forme de, non pas de déni, ni de mépris, mais de méconnaissance de certaines vérités factuelles, lorsqu'on est amené à commenter des faits qui se déroulent en direct, je ne sais pas quelle insurrection, émeute, etc., sans avoir les tenants, les aboutissants, ça c'est un vrai problème. Donc effectivement, les journalistes peuvent commenter, mais ils peuvent commenter à partir de faits, en fait, de faits établis, au moins de rapports lus. Ils peuvent s'appuyer sur les journalistes de leur rédaction. Évidemment, ils ne savent pas, ils n'ont pas la science universelle. Donc, je pense que on peut être éditorialiste et élargir sa focale, à condition quand même d'avoir pas simplement lu les articles des uns des autres, les éditos en particulier des uns des autres, mais en s'étant quand même un peu nourri, me semble-t-il, du terrain. Je ne pense pas que le terrain pollue l'éditorialiste. Au contraire. On est censé vérifier ou infirmer.
On est d'accord. Merci beaucoup Nicolas Truong. Ce sera le mot de la fin. Le commentaire étend son influence des réseaux sociaux aux chaînes d'infos en continu. C'est le titre de votre article à retrouver sur le site du Monde. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. On va